Nova. Dans le genre de
Claire Burger.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Claire Burger, est-ce que vous vous trouvez féminine?
Alors non, je ne me trouve pas du tout féminine, mais je ne me trouve pas masculine non plus. Je me trouve assez neutre finalement, un assemblage un peu complexe de codes appartenant aux deux genres.
Bonsoir et bienvenue dans ce 41e épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Claire Burger. Claire Burger est cinéaste, elle a fait ses études à la FEMIS, elle y étudie le montage, puis passe très vite à la réalisation. On se souvient de Forbach, un film de fin d'études qui se fait beaucoup remarquer à l'époque. Coécrit avec Maria Mazzucchelli et Samuel Théis, il raconte le retour de ce dernier dans sa propre famille, à Forbach, dont il est originaire. Et on trouve déjà, dans ce premier moyen-métrage, ce qui fera la marque de ce cinéma, un registre intime, qui oscille entre documentaire et fiction, un goût des comédiens non professionnels, de corps, de sujets et de genres peu représentés par le cinéma français. Forbach sert quelques années plus tard de matrice à Party Girl, un premier long métrage co-réalisé avec les mêmes Maria Mazzucchelli et Samuel Théis qui remporte la Caméra d'Or à Cannes en 2014. Le film se concentre cette fois sur le parcours fictionnalisé d'Angélique, la mère de Samuel, entraîneuse dans un cabaret à la frontière franco-allemande.
Moi j'ai commencé par là, Las Vegas.
Angélique. Là où c'était les chambres alors.
Oui, c'était les chambres.
Tu habitais là-bas aussi?
Moi j'habitais là-bas, mais j'habitais dans toute la rue. Hein. La rue. Ouais. Là où on danse, on habite.
Mais hein. Exactement. Ouais.
Mais surtout quand elle était bourrée, quoi.
Voilà, c'était un extrait de Party Girl. Aujourd'hui, Claire Burger sort un nouveau film. Il s'intitule « C'est ça l'amour ». Il se passe toujours en Lorraine, à Forbach, et s'inspire d'un matériau autobiographique fictionnalisé, la séparation de ses parents, qui survient alors qu'elle est adolescente.
T'as pas de couilles. T'es lâche. T'es hyper lâche.
Me parle pas comme ça.
Si, je te parle
non,
comme ça.
Me parle pas comme ça. C'est 20 ans de vie commune avec un homme. Ça s'efface pas en deux secondes. Il y a beaucoup de conséquences. La vie sentimentale entre adultes, c'est un peu plus complexe qu'un flirt d'ado.
Mais arrête ton blabla, là. On veut juste savoir si tu le quittes, en fait.
On va se séparer, oui.
Et tu comptes lui dire avant que toute la ville le sache, ou...
Je lui ai dit.
Bah non, il a pas l'air au courant, en fait.
Si, il est au courant, mais simplement, c'est... La situation est... Il faut qu'il accepte la situation. Hein. Ça,
mais tu l'as trouvé, ton appart? S'il te plaît, tu veux pas sortir juste deux secondes, on parle entre grandes, là.
Ça me concerne autant que toi, hein. Ah, maman. Quand est-ce qu'on pourra venir?
Mais tu crois qu'elle va nous gérer, là? Non, mais tu rêves. Hein.
C'était un extrait de « C'est ça l'amour » qui sort le 25 mars. On y entendait la mère expliquer à ses deux filles, Nikki et Frida, sa décision de vivre sa vie de femme et de quitter son mari, Mario, un homme fragile, vulnérable et enveloppant. Alors c'est un très beau film qui décrit avec beaucoup de finesse une histoire de famille, dans la singularité de chacun de ses membres, dans leur non-conformité aux stéréotypes de genre. Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qu'une jeune fille qui en désire d'autres? Et c'est quoi l'amour? Ce soir, je vous invite à passer une heure dans le genre de Claire Burger.
Nova. Dans le genre. L'enfance.
Alors moi j'ai grandi en Lorraine, à Forbach, c'est une petite ville à la frontière allemande. Et j'ai grandi dans une famille, enfin dans une région ouvrière, mais dans une famille de fonctionnaires, avec un papa très féminin et une maman relativement féminine aussi, mais très féministe.
Et du coup, entre eux, ça se passait comment? Enfin, la répartition des rôles, elle n'était pas très...
Ma mère pouvait bricoler. Enfin, en tout cas, ma sœur et moi, on a vraiment été élevés sans différence entre les garçons et les filles. Je pense que c'était hyper important pour mes parents. Et vraiment, il y avait un discours féministe à la maison très important, autant de la part de ma mère que de mon père, d'ailleurs.
Ah ouais? De votre père aussi?
Oui, mais je pense que mon père était même un petit peu impressionné par les idées politiques de ma mère, qui était très de gauche, et puis, oui, très, très, très affirmée dans son féminisme. Et du coup, mon père encourageait ça. Je crois vraiment qu'il nous a élevés, ma sœur et moi, en nous apprenant autant à être capables de faire des tâches réservées aux femmes qu'aux hommes. Moi, j'ai beaucoup bricolé avec mon papa. On a refait la maison. Et j'ai l'impression que ça circulait, tout ça circulait relativement relativement bien chez nous. Et c'est vraiment en sortant de ma famille que j'ai découvert que c'était un petit peu plus... un petit peu moins intéressant, je dirais, dans d'autres familles où les choses étaient beaucoup plus réparties.
Mmh. Mais votre père, quand vous pensez à lui aujourd'hui, vous dites pas du tout que c'est quelqu'un qui renvoie de la virilité, c'est pas ça que vous associez à votre père?
Alors mon père, non, pour moi il renvoie pas du tout de virilité. Alors c'est un homme très grand et avec une voix grave, il aurait pu renvoyer de la virilité, mais il a des petits déhanchements un peu particuliers, des petits mouvements de poignet quand il parle. Il est très hétérosexuel, mais pourtant il y a vraiment une grande féminité qui se dégage de lui et une grande sensibilité aussi. Je crois que c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à l'art, à la musique. Il a toujours détesté le foot alors qu'il était élevé par quelqu'un qui en faisait beaucoup. Et voilà, et après, mon père aussi, c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout d'ambition, de réussite, de pouvoir. C'est quelqu'un qui ne s'affirmait pas du tout à ces endroits-là. Donc j'ai vraiment eu un modèle de père très, très, très loin des clichés de l'homme rassurant et fort.
Et est-ce que ça, c'était quelque chose qui détonnait dans... Vous viviez à Forbach, donc, dans l'environnement proche. C'était la façon d'être un homme qui était celle de votre père. Est-ce que c'était quelque chose qui était... plutôt particulier?
Alors, je pense que oui, mon père avait une façon d'être homme qui était assez particulière, mais mon père est assez particulier tout court. C'est quelqu'un de très fantaisiste. Je pense que tout le monde porte un regard assez amusé sur lui. C'est comme un grand enfant, en fait, qui se serait arrêté de grandir assez tôt. Et c'est vrai que parfois, enfant, j'ai pu avoir des sentiments de honte, parce que je voyais qu'il était assez vite bousculé par les autres hommes, voire raillé. Donc c'est pas un modèle masculin, encore une fois, peut-être rassurant, mais aujourd'hui je suis vraiment très très heureuse d'avoir eu un père comme ça. Ça m'a permis de porter un regard sur les hommes qui je crois, est un petit peu plus complexe que justement de chercher à être rassuré par les garçons.
On va écouter une première chanson que vous avez choisie pour nous, Claire Burger. C'est un titre de Portishead, The Rip. On en parle juste après.
Disappointed and sore, and in my thoughts.
Dans le genre de
Claire Burger.
Voilà, c'était Portishead sur Nova, The Rip. Claire, pourquoi ce choix ?
Alors j'ai choisi Portishead parce que j'ai grandi dans les années 90 et que tout ce qui était trip-hop était vraiment important à cette époque-là. Le grunge aussi, et je crois que ces deux mouvements musicaux qui étaient pas très genrés en fait, où il y avait une grande possibilité d'être fille, garçon ou fille, et même vestimentairement. Moi j'ai eu vraiment cette chance de vivre une adolescence en décidant de pouvoir m'habiller finalement comme un garçon, mais sans que ça choque, puisque toutes les filles le faisaient avec des pulls larges, avec tout un accoutrement qui était entre les genres. Et j'imagine que si j'avais grandi à une époque où le R&B faisait fureur, ça aurait été un petit peu plus compliqué.
On parlait de vos parents précédemment, là vous parliez de votre adolescence dans les années 90, enfin, ou dans les années 80. Vous étiez quel type d'adolescente et comment vous avez vécu le fait de devoir s'inscrire à un moment, d'être une femme, quoi, de s'inscrire dans ce genre-là ?
Moi, j'ai eu une adolescence d'abord un tout petit peu pénible. Je pense que j'allais pas très bien et je devais être assez difficile à vivre pour mes parents, qui étaient en pleine séparation. Et puis, on vivait dans une région qui allait mal aussi, qui était en crise. Donc, il y avait quelque chose comme ça. J'étais d'une grande mélancolie. Alors j'ai découvert mon homosexualité autour de 13 ans.
Ouais, donc ça, c'est assez jeune, hein, quand même.
C'est relativement jeune. Et au départ, j'ai trouvé ça assez compliqué. Donc j'ai porté ça pendant mon adolescence avec une certaine difficulté, un vrai mal de vivre. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui. mais disons qu'en tout cas, c'est quelque chose qui a traversé mon adolescence avec beaucoup de déflagration. Voilà. Une adolescente un petit peu difficile.
Ouais. Et vous disiez, vous parliez du grunge et tout ça, vous vous habilliez d'une façon... Les signes de féminité, c'est quelque chose que vous avez rejeté ou pas du tout ?
Alors, j'ai complètement rejeté les signes de féminité, mais aussi les signes de masculinité. Bon, moi, j'ai toujours, je crois, quand même vraiment été attirée par l'androgynie. J'ai toujours eu le sentiment que les accoutrements liés à la féminité ou à l'ultra-virilité, pour moi, ce sont des déguisements. J'ai beaucoup de mal à les porter. Et j'ai l'impression que pour essayer de me trouver moi-même, j'ai besoin d'essayer d'échapper à ces stéréotypes et à ces codes extrêmement genrés. Donc, c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression d'être féminine ou masculine. J'ai l'impression d'essayer d'être moi. Alors, c'est difficile d'échapper à ces codes puisqu'ils sont un peu partout. Et je dirais que peut-être même tout ce qui est de l'ordre de la féminité, finalement, ce sont des garçons qui me l'ont appris. Enfin, je crois que ce sont mes amis garçons homosexuels qui m'ont appris à être une fille, à oser pousser des petits cris, agiter les mains.
Donc une réappropriation d'une féminité elle-même réappropriée, quoi.
Tout à fait. Mm. Et dans ce sens-là, j'ai commencé à la trouver amusante. Mais au-delà de ça, c'est vrai que mon physique aussi est un physique peut-être un peu particulier, parce que je suis grande, je fais 1m80, un petit peu costaud, et donc je pense que dans la rue, si je suis pas en robe et très maquillée, les gens de loin me prennent pour un homme. Et en même temps, je suis blonde avec des cheveux longs, donc il y a déjà quelque chose dans mon corps qui renvoie des signaux peut-être un petit peu contradictoires, et j'aime plutôt ça, parce que j'ai pas tellement envie ni de ressembler à une fille, ni de ressembler à un garçon, j'essaye péniblement de ressembler à Claire.
Vous disiez, c'est l'androgynie qui m'a toujours attirée, je crois que vous parliez par rapport à l'image de vous-même. Est-ce que c'est aussi ça qui vous attire chez les autres, ou vous pouvez être attirée par de l'hyperféminité ou de l'hypervirilité ?
Alors, en découvrant mon homosexualité, je crois qu'au départ, comme beaucoup de gens, j'ai eu peur et donc j'ai été attirée par des femmes très féminines, peut-être pour fuir les caricatures, enfin les images comme ça que j'avais de l'homosexualité. Mais en grandissant et en découvrant le monde, les autres, j'ai été de plus en plus attirée par les femmes androgynes. Et aujourd'hui, j'avoue que non, les codes de l'ultra-féminité m'attirent plus du tout. Pour moi, il y a toujours quelque chose d'un petit peu grotesque ou de ridicule dans ces codes-là, mais tout comme dans les codes de l'ultra-masculinité. J'ai l'impression que ce sont beaucoup d'effets pour pas grand-chose et qu'ils masquent la véritable personne que j'ai en face de moi.
On écoute un autre titre, Logique Coco de Mansfield Tia. Claire, pourquoi ce titre ?
Alors Mentiltia et Logic Coco, parce que c'est un groupe qui pour moi a existé longtemps dans mon imagerie justement de la communauté lesbienne, et j'ai l'impression que Julia qui est la chanteuse de ce groupe a quelque chose d'extrêmement androgyne justement, avec des codes à la fois très féminins, presque enfantins, et en même temps une vraie masculinité. Je la trouve extrêmement troublante et je trouve qu'elle a un grand talent. Je trouve que cette chanson a quelque chose de très simple et de très beau.
Coco, moi sur la plage, toi sur le dos, les coquillages tombent par et haut. Je sais, je t'invente un maillot. C'est la mer du Nord, mais avec toi, tout est lancinant, ça devient Rio. Tout est lancinant, mais tout est trop chaud. Pourtant ce soir, il fera zéro. C'est la mer du Nord. Tout est lancinant, ça devient Rio. Tout est lancinant et tout est trop chaud. Pourtant ce soir il fera zéro. Parmi les nuages dans le soleil sont tropicaux. Et le bronzage de tes fesses dessine un cœur vulgaire mais beau comme notre amour. Et parmi les nuages dans le soleil sont tropicaux. Et le bronzage de tes fesses dessine un cœur.
Mansfieldtia sur Nova, on est toujours avec Claire Burger. Claire, à l'adolescence, justement, je voudrais que vous me parliez un petit peu des modèles d'identification. On parlait de la découverte de l'homosexualité, mais là je parlais de modèles identificatoires du féminin, du masculin, que vous auriez trouvé peut-être dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique peut-être. Qu'est-ce qui vous plaisait à cette époque ?
À l'adolescence ?
Ouais.
À l'adolescence, il y a énormément de choses qui m'ont influencée, je pense, sur ma féminité, ma masculinité. Je suis allée picorer un petit peu partout, à la fois chez des personnages assez androgynes, comme David Bowie, justement, qui montrait l'exemple de quelque chose qui était possiblement composable, mais aussi, je sais pas, je pense qu'il y a, par exemple, j'étais très fan de Led Zeppelin. Je pense qu'à l'époque aussi, c'était un groupe qui jouait beaucoup sur l'androgynie, les jeans très très moulants, ouais, le maquillage.
Le glam rock et puis le métal, par la suite, ils avaient quelque chose d'assez féminin. Hein,
tout à fait, tout à fait. Et puis des hommes très féminins, dans le trip-hop, il y avait comme ça des personnages très sensibles, très mélancoliques. Radiohead, je me souviens, j'étais très 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 troublée par ce chanteur. et c'est vrai que c'est une époque qui jouait assez facilement des genres, même dans la publicité, Calvin Klein, etc. on a traversé comme ça une petite époque, une petite fenêtre où l'androgynie était justement intéressante, sexy. Et moi, je me suis nourrie de tout ça.
Dans le genre de...
Claire Burger.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre de la cinéaste Claire Burger. Elle sort le 25 mars C'est ça l'amour, un très beau film qui commence au moment où une famille se sépare et qui filme cet après, cette déflagration. Alors on va en parler, mais avant, on écoute un peu de musique. C'est Chloé, Take Care, donc spéciale dédicace à toutes celles et ceux qui ont foulé le dance floor du pulp.
Claire Burger.
Donc c'était Chloé, Take Care, sur Nova. C'est un titre qui figure dans la bande-son de votre film, Claire. C'est un titre que vous avez beaucoup écouté. Vous êtes allée au Pulp, vous, ou pas du tout ?
Alors oui, je suis allée au Pulp, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance, mais à l'époque, d'ailleurs, c'était pas une boîte particulièrement lesbienne, c'était une boîte aussi fréquentée par beaucoup d'hétéros qui venaient chercher du bon son.
Ouais, ça dépendait des soirs, mais oui.
En tout cas, c'est un endroit que j'ai fréquenté, en effet, et c'est peut-être le début aussi de ma vie parisienne, quand j'ai quitté ma province, et que j'ai pu justement me jeter dans les bras des filles à Paris. Et c'était un moment très très chouette, voilà, c'est le début de l'âge adulte. J'avais aussi beaucoup d'amis garçons homosexuels. C'était un endroit que j'aimais beaucoup fréquenter parce qu'on y croisait des gens assez déjantés, assez intéressants et surtout beaucoup de bonne musique.
Paris, ça a été une liberté pour vous ?
Alors moi, j'ai eu la chance, en grandissant dans le Nord et à la frontière allemande, peut-être de venir d'une région où finalement l'homophobie n'était pas extrêmement marquée. Je pense que c'est peut-être plus compliqué dans le Sud. Et puis après, j'étais une fille aussi, donc je pense que en tant que femme, on n'a pas tout à fait affaire aux mêmes difficultés. Je ne me suis pas sentie finalement en difficulté parce que tout à coup, il y aurait des homophobes autour de moi. Je me suis sentie en difficulté parce qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes qui aimaient les femmes autour de moi. Et j'ai eu donc très envie, en arrivant à Paris, de fréquenter la communauté homosexuelle. Je ne le fais plus aujourd'hui, j'en ai plus besoin, mais j'en ai eu vraiment besoin dans ma construction et aussi
ouais, pour... Vous pensez ça aujourd'hui, rétrospectivement, comme une espèce de temps, une nécessité, une aide à la construction, en fait.
Donc, tout à fait, j'en avais vraiment assez de tomber amoureuse éperdument de filles hétérosexuelles et de pleurer et de penser que rien n'était possible. Donc je me suis même obligée, j'allais dans un bar qui s'appelait le Boubsbourg, et j'y allais tous les soirs en espérant un jour tomber amoureuse d'une fille qui aimait les filles, ce qui a fini par arriver. Et enfin, j'ai pu vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et c'est vrai qu'à Paris, cette vie dans cette communauté, à un certain moment de ma construction, c'était important. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus besoin, je pense, du communautarisme, mais à certains moments dans sa vie, je pense que ça peut être important d'être entouré de gens qui nous ressemblent, qui nous apprennent des choses et qui nous montrent que la voie peut être aussi légère, facile, et que ça va aller, quoi.
Et justement, quand vous avez, ensuite on va parler de votre film, quand vous avez commencé à faire du cinéma, est-ce que vous vous sentiez à un endroit où vous étiez un peu isolé, un peu minoritaire ou pas du tout ?
En tant qu'homosexuel ou en tant que femme ?
Les deux.
Quand j'ai commencé à faire du cinéma en intégrant la FEMIS, qui est une école de cinéma dans laquelle il y a un grand nombre d'homosexuels par rapport à la proportion à la moyenne nationale.
Non, c'est un bon plan, alors, faut le dire.
C'est un bon plan. Non, mais on s'en amusait beaucoup parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fréquentais une école où il y avait autant de gens autour de moi qui partageaient ma sensibilité ou ma sexualité. Dans les métiers techniques, il y avait beaucoup de filles homosexuelles.
Ouais, parce que vous avez étudié le montage.
Voilà, j'ai étudié le montage et il y avait pas mal de filles en son, enfin tout ce, là où il y avait des machines, quoi. Mmh. Et pas mal de garçons homosexuels du côté du scénario, de la réalisation, etc. Et donc c'est un endroit où, encore une fois, j'ai pu retrouver des gens qui me ressemblaient, mais en même temps aussi fréquenter plein de jeunes gens hétérosexuels avec qui les choses se passaient très bien. On créait tous ensemble. Et voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir de grosses difficultés en tant qu'homosexuel, en tout cas, et en tant que femme, pas non plus tant que ça, parce que je pense que j'appartiens justement à une génération de cinéastes qui est en train de changer, où à la fois il y a beaucoup de jeunes femmes réalisatrices qui commencent aujourd'hui à faire des films, mais il y a aussi toute une génération de techniciens garçons qui sont tout à fait aptes à travailler avec des femmes, qui sont eux-mêmes très sensibles et qui sont très très loin de ces vieux techniciens masculinistes du ouais. cinéma d'autrefois.
Alors vous sortez, on l'a dit, C'est ça l'amour. Vous aviez fait un premier film que vous aviez co-réalisé avec Maria Mashoukeli et Samuel Théis, qui s'appelait Party Girl, qui était le portrait d'une femme forte, si on le résume. Et là aujourd'hui, vous faites celui d'un homme plus fragile, c'est Mario, qui a une paternité assez peu représentée au cinéma finalement. On en parlait, alors ça fait écho forcément à ce que vous avez dit de votre père en première partie. Mais c'est un enjeu qui vous importait aussi de... Enfin j'imagine qu'on ne pense pas les choses comme ça en termes d'enjeux, mais de représenter des masculinités, une paternité qui n'est pas forcément montrée et par ricochet aussi des féminités.
Tout à fait. Alors, pour moi, vraiment, c'était très intéressant déjà en tant que femme cinéaste de m'autoriser à faire le portrait d'un homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui dans l'histoire du cinéma, ont essayé de donner une certaine image des femmes. Et jusqu'à présent, peut-être en tant que femme, on s'autorisait beaucoup à parler de l'avortement ou des sujets qu'on imaginait féminins et féministes. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est temps pour nous, les femmes, en tout cas, de nous autoriser à porter un regard sur les hommes. Et d'autant plus, là, c'est vrai, j'avais envie de faire le portrait d'un homme dépendant, vulnérable, sensible. Et j'ai l'impression que ce sont des hommes qui existent, qui sont partout autour de nous et qui sont finalement assez peu représentés. Et c'est important, la représentation. Si on veut que les hommes se sentent à l'aise avec leur sensibilité, il faut qu'ils aient des modèles aussi d'hommes sensibles, fragiles, mais beaux, portés à l'écran. Et donc c'était un petit peu dans cette optique-là que j'ai eu envie de travailler comme ça.
Alors c'est un homme aussi qui est un peu malmené par les femmes qui l'entourent, qui elles sont très fortes, que ce soit son ex-épouse, enfin son épouse, ils sont encore mariés, ou je sais pas s'ils sont mariés d'ailleurs, ses filles qui sont quand même assez fortes, les femmes avec qui il travaille, bon, c'est une métaphore de l'époque ou...
C'est aussi un petit peu un jeu pour moi dans le film, c'est-à-dire à partir du moment où je me suis justement... dit que j'allais faire le portrait comme ça d'un homme sensible, un peu fragile, entouré de femmes, ses filles et son épouse assez fortes, des femmes de caractère. J'ai décliné un peu ça dans tout le film. Quand on voit au loin un figurant femme de ménage, en fait, c'est un homme de ménage. Enfin, c'est tout son patron, c'est sa patronne. Enfin, j'avais envie quelque part un peu de m'amuser avec justement ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que tout à coup, il y a des femmes de pouvoir, il y a cette possibilité dans la société, et je voulais que mon personnage à la fois vive ce changement, ce bouleversement, mais pourtant qu'il ne s'y oppose pas. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de le voir malmené comme ça, essayer de trouver ses marques dans un monde qui change, et je pense que mon personnage est intelligent, il élève des filles, il a envie d'en faire des femmes fortes, mais ça ne l'empêche pas de chercher sa place à l'intérieur de
ça. C'est ça, c'est un homme, c'est le trajet d'un homme qui se repositionne, quoi, quand c'est même, ça. D'une façon. Mmh. Justement, le film s'appelle C'est ça l'amour, et je me demandais en préparant cette émission, enfin, c'est une question, quoi. L'amour, c'est genré aussi, la façon dont on l'aborde.
Alors, moi, j'ai fait ce film sur l'amour en m'interrogeant vraiment longuement sur ce que c'était. Alors, à la fin, je ne sais toujours pas ce qu'est l'amour. Je pense que l'amour...
Ouais, il y a plusieurs pistes hein, voilà, dans le film.
Et je crois que, évidemment, ça dépend des gens, ça dépend de tout un tas de choses. Et même, je pense même que les géographies jouent sur l'amour, les cultures. Donc, je ne saurais pas répondre à la question du genre de l'amour. Mais moi, j'ai toujours tendance à croire qu'il n'y a pas réellement de différence entre les hommes et les femmes. Que ce sont de fausses différences et je crois vraiment qu'un homme peut aimer passionnément tout comme une femme. Je vois pas tellement en fait ce qui pourrait faire des différences.
On écoute un peu de musique. Lovers are strangers de China Woman.
Eyes will drift to the sky in time. While arms keep holding tight, there's a party in full force. Still the guests can't help but watch the door. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never. Strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Tell me who you really love.
When you look up,
tell me who you really love. Fall comes by surprise. Looking into strange eyes. School kids who are not friends. In the streets they are connected. Huddling in the dark. The only number. Magic moments are
not last. They'll outlive all your doubts. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.
When you look up,
tell me.
Dans le genre de...
Claire Burger.
Alors c'était China Woman sur Nova. China Woman qui avait signé la très belle chanson de Party Girl, votre premier film. C'est pour ça que vous l'avez choisi aussi ?
Oui, c'est pour ça. C'est vrai que China Woman nous avait donné ce titre, Party Girl, pour mon précédent film. C'est une artiste très intéressante. Et cette chanson en particulier que j'aime beaucoup, Lovers Are Strangers, a un titre que je trouve assez juste.
Alors il y a plein de choses qui m'ont intéressée dans votre film. Donc évidemment, on en parlait, la représentation de cet homme, la représentation des femmes dans le film, mais il y a aussi dans vos films un goût, il me semble, enfin, de filmer pas mal des angles morts du cinéma. C'est-à-dire que dans vos films, on voit des choses qui sont assez peu représentées dans le cinéma français. Il y a évidemment des exceptions. Mais par exemple, Mario, il est fonctionnaire. Enfin, c'est une petite classe moyenne. C'est une classe qu'on voit assez peu filmée au cinéma. Et vous dites, elle est peu cinégénique. Alors pourquoi ?
Alors, j'ai le sentiment que c'est vrai, on voit beaucoup soit de bourgeois au cinéma, soit au contraire un prolétariat en grande difficulté. Peut-être que simplement, d'un point de vue scénaristique, avec l'argent, avec le pouvoir des bourgeois, tout est possible, on peut tout inventer, les plus beaux décors. Et peut-être que au contraire, scénaristiquement, on a affaire à beaucoup d'obstacles quand on a affaire à une classe moins privilégiée. Et donc tous ces obstacles, comment on fait pour manger, comment on fait pour s'habiller, comment on fait pour voilà. Et en fait, c'est quand je dis que la classe moyenne est peut-être moins cinégénique, c'est qu'elle se situe vraiment entre les deux. On peut pas lui donner les obstacles habituels ni tous les possibles. Donc m'attaquer à cette classe là était pour moi un petit peu un pari, essayer de parler d'un fonctionnaire de sous-préfecture alors que son quotidien est peut-être un peu gris, c'était faire une tentative un peu périlleuse. Et dans le film, c'est la culture qui amène aussi à ce personnage beaucoup d'ailleurs et qui lui permet de vivre un petit peu, peut-être plus poétiquement et plus fortement que les murs de sa sous-préfecture. Donc pour moi, c'était vraiment aussi tenter quelque chose. J'ai l'impression qu'être cinéaste, c'est aussi faire des expériences, des recherches.
Oui, donc c'est ça, filmer là, c'est une classe assez peu représentée, assez grise, vous dites d'une certaine façon. Donc il faut trouver comment on la filme. Vous tournez aussi beaucoup avec des acteurs non professionnels. Là, pour ce film, c'est le premier film où vous tournez, où vous mélangez vraiment. Il y a Bully Lanners, il y a d'autres acteurs professionnels. Vous avez mélangé des Lorrains, des gens locaux, des Parisiens, des classes sociales. Ça apporte quoi ? Et est-ce qu'il y a aussi, pour vous, un désir de pas piocher que dans les acteurs que le cinéma vous offre, que dans les corps, que dans les normes que le cinéma vous offre, mais d'aller prendre autre chose ?
Alors, c'est certain que j'aime beaucoup travailler avec des acteurs non professionnels et principalement parce que ce sont des nouveaux visages. Donc c'est toujours intéressant de filmer des gens qu'on voit peu. En l'occurrence, dans ma région, avec cette classe ouvrière, ce sont vraiment des visages, j'ai l'impression, qu'on a peu l'occasion de voir au cinéma. Mais aussi, par exemple, là, j'ai pris la directrice de production de mon film. C'est-à-dire, il y a des membres de l'équipe qui jouent dans le film.
Elle joue la mère, en fait. Elle joue un des rôles principaux, quand
tout
même.
À fait. Ouais. Et voilà, elle-même, c'est une femme qui est très belle, mais qui est un peu fatiguée. C'est un... finalement, les actrices qu'on voit aujourd'hui de cet âge-là sont des femmes peut-être plus apprêtées. Et on a du mal à regarder, dans Party Girl aussi, c'est une femme de 60 ans passée, ces visages de femmes qui vieillissent. Et je trouve que c'est important de les voir, je les trouve belles, j'ai envie qu'on puisse les montrer. Voilà, donc il y a cette idée à la fois de voir des nouveaux visages, de voir des corps qu'on voit peu, mais il y a aussi cette envie que j'ai d'explorer le jeu, un registre de jeu qui permet beaucoup d'authenticité, je crois, le jeu du non-pro, mais aussi de le confronter au jeu du professionnel aujourd'hui, puisque là, Bully Lanners est un acteur pro et que je l'ai immergé au milieu de ses autres comédiens. Pour moi, c'était l'occasion d'explorer en tout cas quelque chose qui métaphoriquement aussi a à voir avec l'amour, c'est-à-dire cette idée qu'on serait tous très différents, qu'on vient tous d'endroits très différents, puis il faut essayer de trouver quelque chose qui sonne ensemble comme une sorte de polyphonie qu'il faudra arriver à faire sonner, à faire résonner. Donc il y a dans le film des gens qui viennent de classes sociales très différentes, qui ont des accents, des territoires très différents, mais que j'essaye de faire sonner ensemble et qui doivent faire famille, et j'ai l'impression que ça marche.
On va écouter un autre titre, Claire, c'est un extrait de la bande-son du film, alors je vais mal le prononcer, hein, pardon pour les fans d'italien, Sposa son disprezzata, donc c'est interprété par Cecilia Bartoli, les épouses sont bafouées. Alors pourquoi ce choix, Claire ?
Alors c'est un morceau qui est dans le film, qui revient plusieurs fois dans le film. Cecilia Bartoli, c'est une formidable mezzo. Et ce morceau parle d'une femme qui est trompée, qui est bafouée et qui en souffre terriblement. C'était assez amusant pour moi aussi dans le film, alors que je parle d'un homme qui est en train de perdre sa femme, d'utiliser une musique qui finalement, pendant très longtemps, les morceaux qui sont dans le film parlent tous d'amour et ils sont tous très genrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux classiques qui parlent d'hommes trompés. donc j'utilise une bande-son qui est presque finalement ironique.
Un peu narrative, ouais, oui. Voilà. Mmh.
Dans le genre
dans
de...
Le genre de...
Claire Burger, quel rapport vous entretenez avec votre physique ?
Alors ça, c'est une question assez bizarre. Je dois avouer que je n'ai pas enfin, je ne prends pas beaucoup de temps pour entretenir un rapport à mon physique. Donc, par exemple, je ne me coiffe pas, je ne me maquille pas, je ne me regarde pas beaucoup dans le miroir. Et finalement, je vois par contre que mon physique produit des choses sur les autres. Et c'est plutôt ça qui est
amusant.
Qu'est-ce
qui produit votre physique sur les autres ?
Ben, par exemple, on m'appelle très souvent monsieur dans la rue. Et je pense que c'est lié à ma taille en grande partie, parce que je crois que si on s'arrête deux minutes sur mon visage, il n'y a pas beaucoup de doutes, mais voilà. Et puis pendant longtemps, à l'adolescence en tout cas, le fait d'être blonde, j'avais le sentiment que ça jouait quelque chose d'assez fort sur les hommes, qui pouvait me faire peur d'ailleurs à l'époque. J'avais l'impression que par rapport à mes copines brunes, moi les garçons s'autorisaient toujours à me parler de sexe presque immédiatement, comme si ma blondeur autorisait tout.
C'est un laissez-passer, la blondeur c'est...
Écoutez, en tout cas c'était le sentiment que j'avais, alors peut-être que c'est pas seulement pour ça, mais ça devait jouer je pense. Mon physique c'est une enveloppe, c'est un vaisseau dans lequel je me déplace, donc c'est plutôt l'effet qui produit sur les autres qui est en question, mais par exemple là je me vois vieillir, je vois toutes les rides arriver, etc. J'y prends un certain plaisir.
Ça vous angoisse pas plus que ça ?
Ça m'angoisse pas plus que ça parce que je sais très bien que je n'ai pas le choix et que quelque part aussi j'ai trouvé très pénible moi d'être une jeune fille adolescente, d'être une proie. Je sens que c'est plus du tout le cas et je trouve ça intéressant. Je me dis qu'aujourd'hui, en tout cas, les hommes, mais les gens me regarderont surtout pour ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire plus que pour mon physique justement.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire, vous ?
Alors, justement, peut-être que c'est une question que je travaillerai toute ma vie, mais je pense certainement de déjouer justement le fait d'avoir ce physique de grande blonde. Donc, je crois que quand je suis face à un homme, j'essaie de lui montrer que je suis forte, que j'ai des choses à dire, que je pense des choses. Je bats très peu des cils et je ne cherche pas trop à séduire par mon physique, je crois.
Vous dites quand je suis face à un homme et quand vous êtes face à une femme.
Quand je suis face à une femme, ça c'est, je ne sais pas, j'ai toujours pensé que c'était un truc très lesbien, mais j'ai plutôt tendance pour séduire à faire croire à cette fille qu'elle ne m'intéresse pas. Et j'ai l'impression que ça suffit. Souvent.
Vous auriez aimé être un homme ?
Non, je crois pas du tout. Je crois que je suis très heureuse d'être une femme. Peut-être que si vous m'aviez posé la question enfant, ça aurait été très différent. Je me souviens en tout cas jusqu'à peut-être mes 10 ans, avant la puberté. J'étais un vrai garçon manqué, je crois. Et si on m'avait donné le choix, probablement que j'aurais choisi d'être un garçon. Mais dès que voilà, la puberté est arrivée, je me suis assez facilement faite à mon corps de femme, moins par contre à ma place dans la société, justement, à 13-14 ans. Ça peut être assez compliqué d'être une fille. Je me suis souvent sentie un peu, en effet, une proie, avec des difficultés à dire non. Voilà, donc j'ai appris beaucoup plus tard à dire non et à me protéger. Mais j'ai un certain plaisir à être une femme et je m'entoure aussi de beaucoup de garçons, mais souvent des garçons très féminins.
Et est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente ?
J'aurais aimé être beaucoup plus intelligente. Je suis toujours assez fascinée par l'intelligence, donc j'aurais aimé être beaucoup plus intelligente et j'aurais aimé être beaucoup plus cultivée. Je viens d'un endroit où la culture n'était pas forcément très importante et je constate tous les jours mes lacunes depuis que je suis à Paris. En transfuge de classe, c'est vrai que je regrette tout ce temps perdu qui aurait pu m'enrichir et donc j'aurais aimé être une femme très intelligente et très cultivée.
Merci Claire Burger. C'est la fin de cette émission, elle a été réalisée par Benoît Thuot. Je vous rappelle le titre du film de Claire Burger, C'est ça l'amour, en salle le 25 mars. Nous on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.